Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis reparti dans mes enregistrements un petit peu tardifs. Il faut dire que j'étais pas du tout à la maison de cette journée, enfin je suis parti en train pour Vichy où je donne des cours. Et vous savez, ça tombe bien parce que le mercredi, je vous parle des outils, et aujourd'hui, j'ai fait 4 heures de cours, et puis j'ai pas eu beaucoup de temps autour, mais j'ai passé une petite heure à me balader au soleil dans les petites rues de Vichy, à faire des photos. Et donc, j'ai fait des photos avec quoi ? Avec mon iPhone, hein, à peu près comme d'habitude. Pourtant, j'étais parti avec mon appareil photo hybride Sony, voilà, à 6000, hein, dont j'ai dit le bien que j'en pense et le mal que j'en pense aussi en mode vidéo, mais le tout le bien que j'en pense en mode photo, je le dis très régulièrement. Et pourtant, je ne l'ai pas sorti. J'ai fait toutes mes photos avec mon iPhone et j'avoue que c'est de plus en plus souvent le cas. Et ça tombe bien parce que j'avais prévu de vous parler de mon workflow photographique en mobilité et donc de mes applications iPhone. Hein. Et vous rappelez, j'ai commencé à boucher une partie. Je vous en ai donné une partie la semaine dernière avec Darkroom. Je vous en avais parlé un petit peu par le passé sur certaines outils de publication. Et là, j'avais décidé d'assembler un petit peu le reste. Alors, vous voyez, ça tombe bien, hein, j'ai un petit peu révisé mes classiques. Ben, tout simplement en observant ce que j'ai fait pendant cette journée, tout simplement depuis ce matin où j'ai commencé à prendre mes photos, avant de partir de la maison, puis ensuite dans les rues de Vichy, puis ensuite dans le train pour rentrer, et ensuite ben, au moment de publier. Alors, c'est ce workflow, je vais vous le faire. Alors bien sûr, je le redis encore, hein, moi je travaille sur iPhone. C'est pas que j'ai quelque chose contre Android, hein, c'est que voilà, c'est pas mon monde et autres. Alors bien sûr, dans les commentaires de l'émission, dans le groupe Facebook, partout où vous voulez, dites-moi si certaines applications fonctionnent, si vous avez des applications qui sont à recommander sur Android ou quoi que ce soit. Moi, je vous fais pas non plus un tour de 200, 300 ou 4000 ou je sais pas, peut-être 30 000 applications mobiles qu'il y a sur iOS au niveau de la photo. Je vais vous en donner, je crois que j'en ai à peine 10, vous voyez, parce que j'ai vraiment fait un grand tri dans les sélections de photos. C'est-à-dire que on pourrait dire, mais j'avais dit sur mon blog que cette année c'était un peu l'année où je voulais viser un peu le minimalisme. Bon, il me reste un mois et demi pour y arriver, et franchement, je n'y arriverai pas, même si j'ai vraiment épuré, mais vraiment beaucoup, vous voyez, certaines choses. Petit à petit, j'arrive à désinstaller des applications. Alors, je dis ça, j'en ai désinstallé 5 aujourd'hui, mais j'en ai réinstallé pratiquement autant, mais dans d'autres sujets. Mais en photo, je me suis rendu compte que j'avais vraiment épuré mon workflow, et c'est vraiment ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Alors, avant même de prendre la photo, je voudrais vous parler d'un outil que j'utilise, c'est-à-dire que des fois, pour certains cas très particuliers, on a besoin de planifier, d'anticiper un petit peu les choses, etc. Alors, c'est vraiment un cas qui peut vous arriver, si par exemple vous voulez prendre des photos, je sais pas, coucher de soleil, lever de soleil, avant le coucher de soleil, après le lever de soleil, ou alors éviter certaines ombres, avoir les ombres dans le bon sens, ou alors vous avez besoin de prendre un monument avec la lumière d'un sens ou dans un autre, ou je sais pas quoi, ou vous voulez un petit peu anticiper les choses, hein, c'est pas parce que vous faites la photo avec un iPhone que vous n'allez pas anticiper un petit peu les choses. Mais ces applications-là, je vais vous donner, peuvent aussi fonctionner pour faire de la photo classique avec d'autres appareils. Ce sont des photos qui vous permettent de planifier un petit peu ben, à quelle heure, à quel moment et où vous allez prendre vos photos. Moi, il y en a une que j'adore qui s'appelle Rizon, R-I-Z-O-N. De toute façon, je vous mets tous les liens dans les notes de l'émission et puis sur mon blog. C'est l'application que je trouve la plus simple pour trouver à la fois la golden hour, donc c'est-à-dire juste après le lever de soleil et juste avant le coucher de soleil. Vous savez, c'est l'heure dorée, comme on appelle, la golden hour, mais aussi l'heure bleue, c'est-à-dire juste avant le lever de soleil et juste après le coucher de soleil. C'est-à-dire que vous avez une demi-heure avant, une demi-heure après. Il y a une demi-heure avant le lever de soleil c'est l'heure bleue, après c'est la golden hour, et le soir c'est l'inverse, golden hour, coucher de soleil, et heure bleue à nouveau. Bref, ça vous donne un créneau de temps, vous voyez, où vous avez des photos et des luminosités un petit peu particulières, etc. Et ben Rezone, c'est magique, elle vous géolocalise, elle vous trouve le jour, elle vous donne le jour à l'instant, et puis elle vous dit, ben à cette heure-là, aujourd'hui, voici les heures, et puis vous déplacez l'heure pour changer de lieu, etc. Et elle va vous donner sur une espèce de cadran qui vous donne très simplement, ben, à quelle heure vous devez faire vos photos, si vous voulez tomber dans ces heures-là, ou alors si vous voulez tomber à le moment où le soleil sera le plus haut ou quoi que ce soit. C'est d'une facilité déconcertante, il n'y a pas besoin de comprendre le mode d'emploi, de toute façon je ne sais même pas s'il y a vraiment un mode d'emploi. Contrairement à deux autres applications, pour ceux qui voudraient aller plus loin dans cette planification, qui là ils vont franchement ça va vraiment plus loin. Il y en a une qui s'appelle Light Track, elle permet aussi de savoir où va se coucher le soleil, où il se lève, etc. pour un jour, un lieu, alors il vous fait ça sur une carte, il trace en fait les axes sur la carte, vous voyez, suivant l'heure, etc. dans quel sens va être le soleil. C'est pas mal, hein, franchement, l'interface est un petit peu brute, je sais pas comment l'appeler, ouais, elle est un peu bizarre, avec des curseurs dans tous les sens. Si vous aimez pas trop l'interface et si vous voulez plus de fonctions encore, vous avez l'incontournable Photopills qui fait tout un tas de choses, mais vraiment tellement de choses, etc. Donc beaucoup de choses qui ne sont même pas applicables pour de la photo mobile, mais qui peuvent être intéressantes. Mais il y a une fonctionnalité par rapport à ces histoires d'heures, etc., qu'elle fait aussi, c'est-à-dire qu'elle vous donne aussi les heures de lever de soleil, de coucher de soleil, etc. Mais en plus, elle vous le fait en réalité augmentée. Et là, c'est un truc qui est un petit peu magique. Donc vous allez sur le lieu où vous voulez faire vos photos, et donc vous démarrez l'application en réalité augmentée, la caméra de l'iPhone va filmer la scène et va vous placer en surimpression et ben, l'emplacement du soleil en fonction de l'heure, etc. Et là franchement vous pouvez pas vous tromper. Si vous voulez vous savoir où il faut vous mettre pour faire une photo où vous aurez le soleil dans l'axe au moment du coucher de soleil ou je ne sais pas quoi, Light Track vous donnera l'axe, mais alors Photopills vous dira même carrément où est-ce que le soleil va passer, etc. Vous pouvez tout anticiper. Pour le reste, ça montre aussi les étoiles et pas mal d'infos techniques, mais je vous le redis, ça dépasse vraiment ce qu'on fait avec l'iPhone. Si votre but du jeu, c'est juste de savoir à quelle heure il faut être, je sais pas, au bord du lac ou de la rivière à côté de chez vous, pour avoir le lever de soleil ou le coucher de soleil, eh ben, raison suffit. Voilà, très clairement, si vous voulez savoir où est-ce que, si vous vous rappelez pas où est-ce que se lève le soleil et se couche le soleil, Light Track ou Photopills vous rendront service. Bon, passons maintenant à la partie proprement photographique, c'est-à-dire le cadrage photographié. Je vais vous dire un truc, c'est que dans ce domaine-là, moi je suis à 90% avec l'application native de l'iPhone. Voilà, très clairement, j'ai cherché pendant des années l'application idéale pour faire plein de trucs, etc. Mais je me rends compte, et j'ai encore aujourd'hui à regarder mon usage, etc. Aujourd'hui, c'est simple, 100% de mes photos ont été faites avec l'application native. Voilà, c'est très clair, 100% de mes photos aujourd'hui ont été faites avec l'application native. C'est celle qui, des fois, enfin, qui pour moi s'avère la plus pratique, la plus ergonomique pour les photos au tout venant. Vous voyez, vous avez besoin de faire une photo, vous la trouvez tellement rapidement dans les raccourcis, vous voyez, de l'iPhone, qu'elle est tout de suite sous la main, vous n'avez pas besoin de la chercher ou quoi que ce soit. Elle est simple, elle convient à tous, elle est donc très rapidement accessible, toutes les fonctions de prise de vue sont assez faciles d'accès, etc. Y compris d'ailleurs, vous avez un niveau hein, sur les photos de verticale maintenant, vous savez, vous avez une petite croix sur iOS 11 qui vous permet de savoir si votre appareil est bien à plat. Voilà, vous avez des petits trucs comme ça qui ont été rajoutés. Moi je dis, en général, je fais 90% de mes photos, mais il y a des journées comme aujourd'hui, je fais 100% de mes photos quand j'ai pas besoin de choses complémentaires. C'est même le conseil que je donnerai aux débutants. Avant de chercher l'application qui fait du réglage manuel, qui va ressembler à un appareil photo, qui va vous travailler les ISO et compagnie, amusez-vous déjà avec l'application par défaut de l'iPhone, vous verrez que vous ferez une très 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 bonne partie de vos photos avec ça, parce que finalement on peut faire énormément de choses avec. Toutefois, des fois on a besoin d'aller un poil plus loin. Alors, je vous donne trois applications complémentaires. Ma petite chouchoute, parmi toutes, s'appelle Caméra Plus. Alors franchement, c'est une application qui est... C'est une vieille habituée de mon iPhone, hein. Je pense que j'ai Caméra Plus depuis que j'ai mon premier iPhone 3, vous voyez, quelque chose comme ça. Je pense qu'elle existait déjà à l'époque. Et il faudrait que je vérifie, mais pour moi, elle est, c'est presque comme si c'était une application native, vous voyez. Elle est tellement présente là dans sur mon iPhone que vraiment pour moi c'est une application puis qui est mise à jour très régulièrement, qui bouge pas, il y a pas de bug avec, vous voyez, j'ai pas rencontré un jour de gros bug ou quoi que ce soit. Elle est stable, elle est vraiment impeccable, et puis ils la font évoluer mais très très régulièrement. En plus les éditeurs ont un site avec des tutoriaux, des aides, des explications, voilà, vraiment très intéressant. Et puis il y avait même des fonctions que vous aviez dans l'application dans Camera Plus qui sont arrivées ensuite sur l'application classique de l'iPhone. C'est pour moi, en plus, elle a un côté facilité d'utilisation qui est redoutable. Bon, on pourrait citer dans les trucs intéressants, elle a son niveau d'horizon qui vous permet de savoir si votre iPhone est au niveau de l'horizon, enfin si vous le tenez droit ou pas, hein, tout simplement. Son mode stabilisateur, des réglages plus proches d'un appareil classique si vous en avez besoin, un truc très pratique, une balance des blancs, voilà, si vous avez des conditions de luminosité un peu particulières ou quoi que ce soit, si vous trouvez que vos blancs sont pas vraiment blancs, bah, et si même vous savez faire une balance des blancs avec une charte de gris, etc., bah, vous pouvez la faire avec Camera Plus. Vous pouvez aussi, et c'est là, moi, je trouve la magie de cette application-là, vous avez un réglage séparé de la mise au point de l'exposition, c'est ce qu'on trouve aussi dans les applications de vidéo, dans certaines applications de vidéo aussi. C'est-à-dire que vous avez, en fait, une petite mire pour régler la mise au point et pour la bloquer, et une petite mire pour régler l'exposition et pour la bloquer, alors que sur l'application standard par défaut de l'iPhone, eh ben, les deux sont reliés, en fait. Et là, vraiment, ça change tout, parce que comme ça, vous pouvez dire, bon, je veux faire la mise au point sur un objet au premier plan, mais je pense que pour la couleur, j'aurais tout intérêt à faire la réglage de couleur sur ce qui est au fond. Et vraiment, ça vous change tout. Par exemple, des fois, vous êtes dans des situations et des contre-jours, ou alors, vous savez, si vous prenez un ciel à travers une fenêtre pour faire un encadrement du ciel, l'iPhone, vous risquez d'avoir des problèmes des fois pour faire certains réglages, etc. Et là, tout d'un coup, juste en faisant ça, en les déplaçant, en réglant ça, d'un coup, vous arrivez à vous sortir de situations qui sont des fois pas très simples à régler avec l'application par défaut. La particularité chez moi, c'est que cette application-là, je règle toujours aussi de stocker les fichiers en format RAW. Je sais, l'application par défaut de l'iPhone sait faire du RAW, mais moi, pour des questions de rapidité, j'aime bien travailler en JPEG. Voilà, c'est comme ça, hein, on a chacun nos habitudes. Moi, c'est mon habitude de vieux con, j'aime bien travailler en JPEG. Et je rajoute du RAW que de temps en temps, parce que la plupart du temps, développer du RAW, franchement, ça ne m'apporte pas grand-chose. J'aime bien faire quelques réglages, mais pour ce que je fais, le RAW ne m'apporte pas forcément grand-chose. Voilà, c'est une question de rapidité, de facilité, etc. Je vous ai dit, j'ai un workflow qui est très minimaliste, vous allez comprendre. Et donc, si je vais utiliser le format RAW pour certains cas, parce que je sais que ça va être un petit peu compliqué en réglage, je passe sur Camera Plus. Voilà, je me prends pas la tête. Mon application par défaut est réglée en JPEG et maintenant dans le nouveau format là d'Apple, là, le HEIF. Et l'application Camera Plus est réglée en RAW. D'autre part, j'en ai deux autres applications. Je vous ai dit, j'ai trois applications complémentaires. Je vous rajoute ProCam 5 et ProCamera. Alors, elles ont presque le même nom, elles ont presque les mêmes fonctionnalités, avec quelques petites variations. Ce sont des apps très connues, hein, soyons clairs. Alors, elles ont un peu plus de réglage un peu plus de finesse, on va dire. Par exemple, elles ont des grilles de cadrage qui sont plus évoluées. On appréciera d'avoir une grille à la Fibonacci, si vous voyez ce que je veux. C'est une espèce de spirale. Vous avez dans ProCam 5 l'introduction du focus peaking, qui va vous assurer une partie de ce qui va être net, de ce qui ne va pas être net. Vous avez pour certains l'histogramme sur ces applications, vous avez le timelapse en HDR dans l'une, la pause longue, le mode nuit dans les deux, vous avez le mode portrait qui est plus évolué. C'est-à-dire que vous arrivez notamment à régler la notion de flou, à quel point c'est flou ou pas. Parce que l'iPhone, l'application par défaut de l'iPhone, le mode portrait sur l'iPhone 7, notamment 7 Plus, vous pouvez pas régler le niveau de flou, et des fois le flou il est franchement trop, il est logiciel quoi, il est trop important. Là vous pouvez les régler. Vous avez des interfaces un petit peu différentes, mais vous avez à peu près les mêmes fonctionnalités. Vous pouvez passer en mode manuel si ça vous intéresse pour régler les ISO, l'ouverture. Vous pouvez faire de la pause longue. Oui, est-ce que je vous ai dit qu'on pouvait faire de la pause longue, notamment avec ProCam 5, vous pouvez faire de la pause longue. Donc si vous avez envie de faire des traînées lumineuses, vous pouvez mettre une pause de 2, 4 secondes, 8 secondes je crois maximum, et donc là c'est pas qu'il peut ouvrir, hein, c'est logiciel, hein, il va reconstituer les équivalents d'une pause longue, hein, c'est pas comme sur un appareil photo classique, mais si votre appareil est stabilisé, vous mettez ça sur un trépied et autres, vous arrivez à faire des effets de filet dans la nuit, etc., avec les phares des voitures, avec les manèges qui tournent, etc., voilà, vous arrivez à refaire ce qu'on arrive à faire sur un appareil photo classique avec ce qu'on appelle de la pause longue. Donc avec ces 4 applications là, je vous ai donné, et ben moi je couvre 100% de mes besoins, mais je vous dis 90% de mes besoins, c'est l'application standard par défaut de l'iPhone. Passons ensuite à l'étape de tri, parce que c'est bien beau de faire des photos, il faut les trier. Moi, ma règle générale, c'est que je mets toutes les photos dans l'application photo officielle. Vous savez, là vous avez la galerie, j'ai 25 000 photos qui sont stockées dedans, c'est un peu le bordel, je vous dirai après pourquoi ça me pose problème, mais c'est pour moi ce qui est le plus simple pour faire du tri. Alors, suivant les applications, Caméra Plus notamment, elle peut enregistrer dans son propre album photo, et vous êtes capable ensuite de dupliquer de copier la photo, enfin ou de la déplacer, ils ont un mode Lightbox qu'ils appellent, et puis une fois que vous avez fini l'édition, vous pouvez la mettre dans l'application photo officielle, hein, dans la galerie. Moi, le plus simple, c'est que je mets tout dans l'application photo officielle, c'est là que je fais le tri, c'est là que j'en supprime certaines, etc. C'est là aussi que j'en mets en favorite, où je vais mettre dans des dossiers. Alors, quand je mets en favori, tout simplement, c'est pour pouvoir les retrouver plus facilement ensuite pour le partage et pour le traitement. Et voilà, je me contente de ça. C'est-à-dire que je regarde les photos, je dis, bon, celle-là, elle me plaît pas, celle-là, elle me plaît. Celles qui me plaisent vraiment, je mets un petit cœur dessus. Celles qui me plaisent pas, qui sont floues, je les mets à la poubelle. Et les autres, eh ben, je les garde, voilà, en me disant, un jour, je finirai par les trier. Ensuite, je passe au traitement. Vous voyez comme quoi, c'est rapide, hein. Je fais ça dans la rue en marchant tranquillement. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ensuite, l'étape suivante, c'est la retouche. Retoucher les photos, je vous en ai parlé la semaine dernière. Moi, l'application reine sur mon iPhone, c'est Darkroom. Voilà, j'ai encore regardé je vous redis tout ce que j'ai dit la semaine dernière, hein. Enfin, je ne veux pas vous le redire. Darkroom est pour moi l'application qui a remplacé toutes les autres. Je ne démarre quasiment plus Visco. Caméra Plus a quelques effets très efficaces, notamment avec une option payante là que j'avais... Donc j'ai perdu le nom, mais qui a une option, vous voyez, sur la color, qui fait un HDR+, etc. Vraiment, qui donne des résultats qui sont pas trop mal, vous voyez, enfin qui sont la luminosité plus, je sais plus comment ils l'appellent, ils ont des quelques effets comme ça, mais très sincèrement, moi mon truc c'est Darkroom, quoi. Voilà, vraiment, Darkroom me simplifie vraiment la tâche. Alors par défaut, je regarde d'abord les photos que j'ai mises sur lesquelles j'ai mis un petit cœur, je fais un traitement. Je fais mes petits effets, mes petits traitements, mon recadrage, etc. Avant, j'utilise d'autres applications pour corriger des fois les perspectives, etc. Mais je trouve que les outils qu'il y a dans Darkroom sont largement suffisants parce que j'avais une application qui s'appelait SKRWT, que vous connaissez peut-être, qui était super bien à l'époque, mais je trouve qu'ils l'ont complexifié, même s'il y a des trucs intéressants. Vous voyez, par exemple, elle s'est corrigée automatiquement l'aberration de la déformation d'une GoPro. Si j'importe les photos de la GoPro directement sur mon iPhone, je pourrais les traiter. Bon, bref, mais sincèrement, j'ai même plus la démarrer, cette application. Je vous le dis, Darkroom, moi, c'est vraiment l'application. Je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas écouté, et je vous dis pourquoi j'adore cette application-là. Passons donc ensuite, je fais tous mes petits traitements, et je passe ensuite à l'étape publication. Là aussi, j'en ai déjà parlé. Moi, la publication, elle est simple. La principale destination de mes photos, c'est Instagram. Voilà, très clairement. Mon but, ça serait de publier au moins une photo par jour sur Instagram. J'adorerais en publier 2, voilà, sur mon compte perso. Mais en fait, comme j'ai plusieurs comptes, hein, vous savez, en ce moment, je gère au moins 3 comptes Instagram. J'ai mon compte perso, Bertrand Soulier, le compte de mon blog de papa, et le compte de Cyberbounia. Voilà, vous voyez, ça fait... Aujourd'hui, j'ai publié 2 photos sur Instagram, une sur Bertrand Soulier et une sur Cyberbounia. Les 2 sont prises à Vichy. Les 2 ont été faites avec l'application par défaut de l'iPhone, traitées dans Darkroom, publiées directement pas sur Instagram. Alors, il y a 2 cas quand même par rapport à Instagram. Soit je sais que je vais la publier directement, dans ce cas-là, j'ouvre Instagram et je exporte ma photo, je la publie. Soit je me dis que c'est pas forcément le bon moment, ou je veux un peu soigner la description, etc. et je le ferai un peu plus tard. Dans ce cas-là, pour éviter d'oublier et pour avoir aussi un effet de savoir à peu près à quoi ça va ressembler avec l'accord avec les autres photos, j'utilise une application qui s'appelle Planoly. Je vous avais parlé de cette application il y a plusieurs semaines en vous disant, si vous voulez voir à peu près à quoi ressemble votre flux Instagram, votre grille, programmer vos photos, mais vous savez que dans Instagram, vous pouvez pas programmer la publication, vous pouvez programmer que ça vous mette une alerte pour vous rappeler de publier la photo. Et ben, franchement, j'avais testé, je vous ai dit, je teste Later et Planoly. J'ai fait 1 mois sur Planoly, 2 mois sur Later, et puis finalement, ça fait 1 mois que je suis revenu sur Planoly. Et vraiment, Planoly, c'est le truc, je la trouve vraiment géniale. C'est celle qui est la mieux, vous voyez, pour bien régler la grille, etc. Je me suis même mis des petites grilles avec des éléments en me disant, bah tiens, tel jour, tu vas publier une photo Movember, tel jour une photo sport, etc. Et ensuite, je réorganise, je re-règle mes choses. Des fois, j'ai une idée, je me dis, tiens, tel jour, faut que je publie telle photo. Et ben, je me mets ce qu'on appelle un placeholder, voilà, tout simplement, et dans lequel je repère ces éléments-là. Et ensuite, et ben, quand j'ai la photo qui va aller avec, je vais juste remplacer ce marqueur par la bonne photo. C'est vraiment pour moi le système le plus efficace pour gérer la grille. Bon, c'est une application qui est payante avec un abonnement mensuel, mais franchement, je me suis rendu compte que c'est ce qui me permet d'être le plus efficace en publication. Je vous le répète, en plus, elle a un avantage, que vous avez une interface web. Vous pouvez importer des photos de votre ordinateur sur Instagram par ce biais-là, mais vous pouvez ne serait-ce que rédiger vos textes sur Planoly, répondre aux commentaires aussi directement dans Planoly, et puis vous pouvez aussi, même gérer les stories avec. Alors là encore, ça vous met des rappels et autres, mais c'est vraiment, franchement, vraiment, mais vraiment pour moi, l'application la plus efficace pour ça. Il y en a d'autres, mais je trouve que c'est vraiment la plus efficace. Pour les autres réseaux sociaux, bah, soit je publie directement, soit je passe par CoSchedule, dont je vous avais aussi déjà parlé, qui me permet de planifier une photo, la publication d'une photo, mais de tous mes messages sur les réseaux sociaux, à des heures que j'aurais définies, voilà. Comme ça, j'ai tout ça dans une grille de programmation. CoSchedule, c'est aussi faire Instagram, mais comme il prévisualise pas la grille, ça m'intéresse pas, voilà. Dans CoSchedule, je n'ai pas Instagram, tout simplement. Voilà, on a fini sur l'étape, sur mon workflow photographique. Et vous allez me dire, il manque quand même quelque chose. Oui, il y a un chaînon manquant dans tout ça. Et c'est le côté catalogue de photos, catalogue de stockage, comment mieux les ranger, surtout ne pas les laisser traîner sur l'iPhone, mais les retrouver très facilement, etc. J'ai très longtemps utilisé Aperture d'Apple, que je trouvais assez efficace pour ce que ça faisait, même si au bout d'un moment, il était un poil lent. Je ne suis pas super fan de Lightroom, je vous l'ai dit la semaine dernière. Et surtout, en fait, entre Lightroom, payer l'abonnement de Lightroom, l'abonnement photo, Lightroom CC, compagnie. Bon, je pourrais faire, hein, ça serait avec les abonnements Creative Cloud. Je pourrais avoir Lightroom sur l'application sur mon mobile, avoir Lightroom sur mes deux Mac, le synchroniser entre tout, ranger un petit peu les choses, etc. Mais en fait, ça, je suis pas très fan. Alors voilà, je n'ai pas trouvé l'outil qui me satisfasse vraiment. Vous voyez, photo sur mes Mac, j'aime pas ça. J'aime pas trop l'ouvrir. Sur mon petit MacBook Air, en plus, je trouve que c'est lent pour pas grand-chose, etc. Je l'ouvre quasiment jamais, voilà. J'ai juste activé la synchronisation iCloud pour récupérer tout ça, pour ne pas perdre de photos, ne pas perdre d'images. Mais très clairement, j'aimerais trouver un moyen de cataloguer mes images, notamment sur Mac, mais aussi peut-être sur l'iPhone, etc., qui sont un petit peu différents. J'ai testé différentes choses, quelques applications, etc. Ben moi, j'ai pas trouvé ce qui me plaisait vraiment. Alors voilà, je suis preneur de vos idées. Dites-moi vous ce que vous pensez, comment vous faites, comment vous gérez ça. Moi, actuellement sur Mac, même vous voyez très clairement, je gère ça dans des dossiers. Mais les photos iPhone, ben je les gère pas dans des dossiers, donc elles sont un petit peu là comme ça, posées comme ça. Ça m'embête beaucoup parce que surtout qu'avec l'arrivée de notre bébé. Le stock de photos va augmenter, mais considérablement et vraiment, vraiment très rapidement. Donc voilà, je suis preneur de vos idées. Si vous avez des idées, si vous avez des méthodes, comment vous gérez vos photos, le stockage, l'archivage, la consultation, comment vous les retrouvez, comment vous peut-être gérez les fichiers, les données EXIF ou je sais pas, et ben dites-moi, ça m'intéresse, voilà. Je suis vraiment preneur, je sais que certains font de la photo parmi ceux qui écoutent le podcast. Comment vous gérez ça, hein? Est-ce que c'est par Lightroom? Pourquoi Lightroom, etc.? Pourquoi un autre outil? Il y a d'autres outils, je suis en train de surveiller, qui sont en train de sortir sur Mac. Sur iPhone, je suis pas très satisfait de ce que j'avais vu et autres. Et puis j'ai surtout pas envie de dupliquer les photos, vous voyez, faut vraiment trouver un moyen d'organiser facilement les albums. Mais je suis pas fan de la manière dont on gère les albums. Je trouve que déplacer les photos dans les albums, c'est juste pénible sur l'iPhone. Voilà, c'est pour moi le chaînon manquant, vous voyez, dans le workflow photographique. Et je pense que je suis pas le seul. C'est cette partie organisation. C'est sûr qu'ils ont mis de l'automatisme, hein, reconnaître les visages, reconnaître les lieux, reconnaître les heures, etc. Mais ça suffit pas, parce que quand on cherche une photo sur des thématiques, et ben des fois, on passe du temps à chercher des photos pour pas grand chose, et si vous mettez toutes vos photos en favoris, hein, avec un petit cœur dessus, au bout d'un moment, vous finissez, vous les retrouvez pas non plus, voilà. Donc, c'est bien pour en stocker quelques-unes, mais c'est pas vraiment l'idéal non plus. Voilà. Donc, je conclue cet épisode sur une sorte d'appel, non pas à l'aide, hein, mais vos conseils. Dites-moi ça sur Twitter, sur Facebook, un petit peu à droite à gauche, hein, où vous avez de, comment dire, des, où vous avez envie de discuter, hein, envoyez-moi un mail aussi, je sais pas. Si vous êtes sur Patreon, mettez-moi un commentaire. Si vous avez des liens vers des méthodes en YouTube ou je sais pas quoi, dites-le-moi. Si vous avez fait un billet de blog sur le sujet, dites-le-moi. Bref. Je suis preneur de vos avis et j'en reparlerai volontairement, je partagerai volontairement les liens, etc. parce que je pense que ça va dépanner beaucoup de monde. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle soirée ou une très belle journée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.